Ce balado vous est présenté par les Sentiers Magnus Poirier, un concept unique en son genre situé à Prévost dans les Laurentides et par station7.ca. Bonne écoute! Vous écoutez Les Grands Entretiens, un balado du Salon des aînés de Saint-Jérôme, en compagnie de Stéphanie Salomon et Guillaume Nadon. Aujourd'hui, un grand entretien avec l'artiste aux multiples talents, Louise Portal.
Mon invité avec qui je passerai la prochaine heure est une artiste aux multiples talents. Au théâtre, à la télévision et au cinéma, elle y a incarné une centaine de rôles. On l'a retrouvée dans des productions cinématographiques à grand déploiement, notamment Le déclin de l'Empire américain, Les invasions barbares, Paul à Québec et Il pleuvait des oiseaux. À la télévision, elle incarne le rôle de Nicole Lajoie dans La petite semaine en 1976, qui constituera son premier grand rôle à la télévision et un véritable tremplin vers la popularité auprès d'un public qui lui est fidèle depuis. On se rappelle aussi de ma prochaine invitée dans Rivière des Jérémies, Le volcan tranquille, Tabou, 19-2, 30 vies, Toute la vérité, Destinée et j'en passe. Pour elle, son métier d'actrice est devenu un outil qui lui permet de rejoindre l'autre, d'être en communication avec l'autre. Grande épistolière et écrivaine, elle a plus d'une vingtaine de publications à son actif. L'amour des mots, c'est son père Marcel qui lui a légué. Celui qui est paru depuis peu, L'héritage des mots, est une correspondance entre deux rives qui a pris naissance aux îles de la Madeleine, entre elle et celle qui est devenue sa grand-mère d'adoption, Jeannette. À l'aube de ses 71 ans, prenons le temps de prendre le temps de souligner la brillante carrière de cette femme qui s'échelonne sur plus de 50 ans. Tout le monde en voudrait une dans sa vie. Louise Portal, bonjour.
Oh, quelle belle présentation. Merci beaucoup, Guillaume.
C'est représentatif, mais pas tant, parce que vous avez donc eu beaucoup plus de rôles que ce que j'ai cité. Mais juste pour revenir à ce qu'on a entendu au tout début, c'est un extrait donc de la chanson Cinéma que vous avez interprétée dans votre quatrième album intitulé Portal en 1989 et que vous avez aussi revisité en 2016. Qu'est-ce que cette chanson représente? Parce que, juste le dire aux auditeurs, c'est vous qui m'avez parlé de cette chanson-là. Pourquoi celle-là?
Bien, cette chanson-là, c'est parce que d'abord, toutes les chansons de cet album-là, je les ai écrites au moment où je suis à Paris, en train de tourner Mes meilleurs copains de Jean-Marie Poiré, le même réalisateur qui nous a donné Les visiteurs, Le Père Noël est une ordure. Alors, je tournais avec une gang de gars, avec Christian Clavier, Gérard Lanvin, mon Dieu, Jean-Pierre Bacri, qui nous a quittés dernièrement. Et tous les week-ends, je travaillais avec le frère de Renaud pour écrire ces chansons-là. Alors, cette chanson-là me rappelle Mes meilleurs copains, ces quelques mois en France pour tourner ce film et être à l'étranger pour tourner un film. Heureusement que j'avais pas loin de la quarantaine parce que c'est pas facile de s'exiler pour aller travailler à l'étranger. Mais là, j'étais assez solide pour être capable de vivre la solitude qu'il y a là-dedans.
C'est ça. Donc, on parle de la fin des années 1980. Là.
Voilà.
Donc, vous étiez bien installé au Québec, bien établi, vous étiez connu. Et là, vous avez décidé. Puis, vous êtes revenu quoi?
Là, il s'est passé beaucoup de choses. je suis revenue après ça, puis j'ai poursuivi donc ma carrière au cinéma. À la télévision, puis je vais arriver à l'écriture plus tard. Mais je dirais que j'avais fait un autre film avant, au début des années 80, qui s'appelait je pense que ça s'appelait Les Fauves, avec Daniel Auteuil, puis tout ça. Mais là, c'était vraiment comme un film important qui est devenu un film culte en France. Et puis pendant des années, quand je retournais à Paris, puis j'allais, mettons, manger au restaurant avec Christian Clavier, tu sais, faisait exprès, il m'amenait dans des restaurants où les serveuses adoraient ce film. Et puis, veux-tu que je te raconte une anecdote? Un jour, je suis dans le haut d'une montagne, mais en Gaspésie, et il y a un jeune couple de Français qui sont là, fait que je commence à parler avec eux. Puis à un moment donné, je leur dis, ben oui, moi, j'ai fait quand même quelques films en France. Je suis une actrice. J'ai fait, bon, mes meilleurs copains. Et là, tout à coup, ils me regardent, puis ils font, oh la vache, c'est pas vous, c'est pas vrai, c'est pas Bernadette. Fait que là, je dis, oui, oui, c'est moi qui joue à Bernadette. Oh, là, alors. Et là, ils sont mis tous les deux à dire toutes les répliques du film. Et là, il a fallu qu'on prenne des photos. Ils envoyaient ça à leurs amis. Eux autres, ils n'en revenaient pas.
Donc, vous avez conquis un public français, mais bien avant tout, il y a eu le public québécois. Et Louise, quand on a annoncé votre participation à ce balado, on a reçu plus de 300 réactions, des témoignages. Ça a été vraiment fascinant. On en a retenu un. Si vous acceptez, je vais vous en lire un petit extrait. Joanne nous dit, la belle Louise Portal, au début de sa carrière dans les années 70, je l'ai vue au petit écran, entre autres dans les téléromans du Tac au Tac, etc., etc. Elle se rappelle particulièrement de vous dans les années 1980, alors que son amoureuse de l'époque et elle allaient vous voir chanter au Club Soda situé sur l'avenue du Parc à Montréal. Et elle arrivait toujours très, très tôt pour être certaine de s'assurer d'être près physiquement de vous, parce que vous étiez une précieuse idole. Et elle dit, son pouvoir des mots est fascinant. Quand je la lis, j'ai l'impression qu'elle me parle. Elle m'a aidé à cheminer dans mes quêtes et difficultés personnelles les plus profondes. Que ce soit par le jeu ou l'écriture, la douceur, l'authenticité, la sensibilité qui se dégage de cette belle et talentueuse personne me touche particulièrement. Ce qui me vient, une question, puis ça fait écho à ce que vous me parliez par rapport à ce couple français. Est-ce que vous êtes consciente de l'apport positif que vous avez chez votre public? Parce qu'à un moment donné, quand on atteint une certaine popularité, est-ce qu'on peut ne pas perdre de vue cette importance-là? Parce que le couple français en question, ils vous connaissaient, mais vous les connaissez pas, là.
En fait, moi, je commence à m'en rendre compte à cause de l'âge que j'ai. Puis aussi parce que si on se reporte à il y a 20 ans, 25 ans, on n'avait pas les réseaux sociaux, puis le monde ne pouvait pas te mettre des likes puis t'envoyer des messages. Le message que tu viens de me lire, ça me touche beaucoup parce que cette personne-là, là, elle a la chance, tu vois, d'exprimer son admiration, son affection, puis venir me dire à travers toi, Guillaume, que j'ai fait une différence. En vieillissant, je le vois que je fais une différence parce que là, maintenant, je fais des activités qui s'adressent aux aînés et là, j'ai beaucoup plus de retours, surtout depuis la pandémie, parce qu'on travaille en Zoom, donc je vois mon monde, tu sais.
Mais à l'époque, vous faisiez quand même des spectacles.
Oui.
Bon, vous avez fait aussi plusieurs salons du livre, donc il y avait un compte. À l'époque, si on se remonte, là, dans l'anecdote de Joanne, elle nous dit au début des années 80, vous avez vu au Club Soda, mais à l'époque, est-ce que vous étiez tellement dans l'effervescence de cette popularité-là que vous vous en rendiez compte? Pas compte, plutôt?
Ben, c'est-à-dire, je voyais que les salles étaient pleines. Tu sais, c'est une époque où on vendait pas beaucoup de disques, mais moi, si mes salles étaient pleines, quand je me déplaçais, je voyais que les gens aimaient mon show. Puis moi, j'aimais ça, être en scène. Ça fait que je le voyais, là, que j'arrivais à transmettre. Mais ce qui me touche le plus, là, depuis le début de notre conversation, c'est que tu parles des mots, hein? Puis moi, c'est quelque chose que je viens juste de comprendre depuis à peu près 2-3 ans, que mon X, moi, c'est les mots. Qu'ils soient chantés, écrits, dits, actés, moi, tant que je peux communiquer avec la parole, peu importe la forme, je sais que c'est là qu'est mon chemin. Et puis, parce que je ne suis pas sportive tellement. Et puis...
Mais ça a toujours été en vous.
Tout le temps, parce que j'ai commencé à écrire mon journal, j'avais 13-14 ans quand j'étais pensionnaire.
Mais c'est ça, donc vous vous êtes réfugié dans l'écriture, comme vous dites, quand vous étiez aux Ursulines de Québec. Ça a été comme un confident, ça a été, puis j'imagine que ça l'est encore aujourd'hui. Mais donc, votre passion pour l'écriture, c'est en quelque sorte un témoin privilégié de tout ce que vous avez vécu. Je le disais dans le préambule, vous avez publié une vingtaine d'ouvrages, entre autres Les mots de mon père, qui constitue un livre hommage à votre père, qui regroupe les lettres les plus marquantes que vous avez reçues entre 1965 et 1980. Louise, est-ce qu'il y a des récits que vous avez rédigés que vous allez garder à jamais seulement pour vous puis que vous n'allez jamais les publier?
Bien, c'est sûr que tous mes cahiers, là, je suis rendue à 127 cahiers. Il y en a la moitié qui sont déjà aux archives nationales, dans mon fonds d'archives. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais envoyer toute la balance, là. Mais pour l'instant, j'ai décidé de garder quand même les peut-être 60, 65 cahiers que j'ai en ce moment, parce que justement, j'arrive à un âge où je vais probablement revisiter ma vie, même si dans plusieurs de mes ouvrages, il y a beaucoup de choses de ma vie qui sont remaniées par l'imaginaire, mais qui viennent de moi. On écrit toujours à partir de soi, de toute façon. Pour répondre plus pointillement à ta question, je pense que quand on écrit, là, il faut être sans pudeur. Il faut pouvoir dire les choses. Il faut pouvoir s'abandonner complètement. Puis, tu sais, c'est la même chose que quand on incarne un personnage. Si on commence à avoir des réserves, puis à dire, ah, ben là, j'irai pas trop là, puis je ferai pas trop ci, on va bloquer la spontanéité, puis on va bloquer, en fait, ce qu'il y a à être révélé. Et dans l'écriture, c'est très important. Puis moi, j'essaie justement de me présenter. Je dis souvent ça dans mes ateliers d'écriture. Il faut se présenter et laisser monter la voix intérieure. Parce que l'écriture, c'est notre voix, mais c'est notre voix intérieure.
Mais en même temps, c'est très personnel comme démarche. Est-ce que vous, il y a des écrits justement que vous allez à jamais garder secret pour vous, ou si pour vous, étant donné que c'est un exercice qui est très...
Non,
pas
moi,
de pudeur et donc...
Non, moi, j'écris jamais de façon secrète. C'est sûr que là, mes cahiers pourront être consultés après ma mort, parce que dans mes cahiers, je dis et je raconte tout ce que je vis.
Est-ce que ça vous rassure, ça, par rapport à ce processus-là vers la mort, de savoir que vous avez gardé, que les gens pourront vous lire ensuite? Est-ce que pour vous, ça vous rassure?
En fait, non, je pense pas à ça, mais ce que je trouve bien, c'est que pour moi, mon héritage, ça va être ça. Moi, j'ai pas eu d'enfants, j'ai pas eu de petits-enfants, donc oui, j'ai fait plein de films, mais tu sais, des films de la télévision, bon, de temps en temps, là, je vois des fois, ils repassent des reprises du tac au tac. Je me suis vu faire un striptease l'autre jour, je m'en souvenais même pas.
Non, c'est ça, vous en avez tellement fait qu'il y a des choses que vous... Mais j'étais curieux de savoir, Louise Portal, si... Hormis l'écrasement des tours jumelles du World Trade Center à New York en 2001, puis quelques autres rares exceptions, vous abordez très peu l'actualité dans vos publications, alors que pourtant l'actualité fait partie intégrante de nos vies. Pourquoi?
Ben parce que pour moi, écrire, c'est sonder la vie intérieure, la vie spirituelle. C'est sûr que quand j'écris mon journal, je colle des articles de journaux, je parle de l'actualité. Mais dans mes écrits, moi, j'essaie de créer la beauté puis l'harmonie, de témoigner de la beauté puis l'harmonie dans le monde. Si on prend, par exemple, mon livre « Seules, ces femmes que j'aime », c'est des portraits de femmes qui sont seules, mais qui ont eu de la résilience, qui ont réussi à transformer cette solitude en quelque chose de positif. Tu sais, j'aurais pas écrit un livre sur la solitude puis que ce soit le désastre ou l'isolement. J'ai pas ce... Et c'est une chose en ce moment d'ailleurs que je déplore dans la télévision, c'est qu'il y a trop de drames. Tout est un drame, c'est des meurtres, c'est des enquêtes. Tu sais, je sais que c'est bien réalisé, que ça donne du travail à plein de monde, mais moi, je ne m'y reconnais pas parce que déjà, dans l'actualité, il y a beaucoup de drames, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'apporter un peu de lumière? Puis moi, c'est ce que j'essaye de faire à travers mes écrits. Mais c'est sûr que j'ai l'âge que j'ai. Quand on écoute mes premiers albums, surtout le premier, c'était ma peine d'amour que j'ai faite à 29 ans. Ben là, c'est je m'habille en mauve, je sors le soir sans lanterne, sans phare, je drague l'amour.
Vous étiez dans un autre contexte aussi.
Complètement.
Là.
Et le vieillir, pour moi, est positif en ce sens que je me sens mieux, je me sens en paix. Je suis pleine de gratitude, tu sais, Guillaume, parce que j'ai pu réaliser au cours de ma vie beaucoup de choses. Puis comme disait André Lachapelle, on a-tu assez travaillé?
Mais ça, est-ce qu'on le réalise quand on travaille beaucoup ou si on le réalise seulement après, par exemple?
Non, on le réalise aussi au moment où on travaille. J'écoutais une entrevue de Guillaume le Métis Vierge. Guillaume a été mon fils dans Cheval Serpent, puis là, il disait, ben là, je commence à penser à la semi-retraite, puis là, ça me faisait sourire, parce que moi, je me sens comme ça, mais j'ai 71 ans. Je pense que quand on est un artiste, on prend jamais totalement sa retraite, mais la réalité qui nous est offerte se transforme, on cède la place à une nouvelle génération, les sujets abordent des thèmes beaucoup plus jeunes que notre âge, pour la plupart. Donc, si tu regardes dans les films et dans les téléromans, là, il y a une ou deux personnes en haut de 60 ans, c'est à peu près tout, là, t'sais. Non, moi, j'accueille, tu sais, de plus en plus ce qui est, comment ça vient. Et puis, je crois que c'est la façon d'aborder le vieillir. Puis je trouve ça beau de dire le vieillir, tu sais. C'est sûr qu'on peut dire la vieillesse, là.
Mais on vieillit toute notre vie, hein.
Donc, ben, c'est ça. Voilà. Ouais. Puis on est chanceux. Moi, ma soeur jumelle est décédée à 60 ans. Moi, je viens de gagner 11 ans, là, tu sais, sur le départ de Pauline. Je me trouve tellement chanceuse.
Oui, c'est ça. Parce que, parce que vous avez vécu beaucoup de mouvements, d'épreuves, de grandes joies, des ruptures, des remises en question. Mais ce que j'ai remarqué dans tout ce que vous avez écrit, même les entrevues, puis même à travers aussi vos chansons, que votre vie a été marquée par beaucoup de deuils, que ce soit la séparation corporelle de votre sœur au pensionnat, que ce soit le décès de vos parents, votre métier d'actrice aussi en quelque sorte, la mort de Pauline en 2010, mais aussi celui de ne jamais avoir eu d'enfant. Vous dites que c'est important de nommer dans le processus de deuil. Vous qui accordez une grande importance en vieillissant au passé, quel deuil a été le plus difficile à traverser pour vous?
C'est une excellente question parce que les deuils sont nombreux au cours d'une vie, puis en vieillissant, ils le sont encore plus parce qu'on faut faire le deuil de nos maisons, le deuil de certains aspects de notre profession. La mort de mon père a été un deuil, mais je ne peux pas dire que ça a été un deuil difficile. Ça a été comme un deuil qui m'a permis de réaliser que tout ce que mon père avait eu à me léguer, je le possédais. Et puis que ça, c'était immuable et éternel. Il y a eu le premier deuil de ma vie. C'est quand ma grand-mère est décédée, à la veille de mes 12 ans, c'est pas pour rien que j'ai demandé à Jeannette Rivière de devenir ma grand-maman d'adoption, parce que j'avais pas connu d'aînée, moi, au cours de ma vie. Alors ça, je me souviens que ça avait été comme un choc. Je pense que pour tout le monde, un premier deuil, ça nous bouscule. Le deuil de Pauline, ben ça, c'était plus difficile, plus à cause des circonstances, peut-être j'en parlerai tout à l'heure.
Hein? Ben, c'était un deuil qui était quasi permanent, non? Ça a été
long. C'est un deuil annoncé depuis longtemps parce que notre relation a été complexe.
Et... Oui, parce que je vais vous montrer un objet, Louise, puis les gens à la maison puis qui nous écoutent ne le verront pas, mais je vais vous montrer une poupée russe. Une poupée russe qui est rouge.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Parce que si on ouvrait la poupée russe, il n'y en aurait qu'une à l'intérieur.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, la poupée russe?
En fait, la poupée russe, nous autres, on l'avait quand on était jeunes. Puis quand j'ai écrit Pauline et moi, cette poupée-là est revenue dans mon inspiration. Et puis, mon Dieu, c'est émouvant. C'est comme si j'étais séparée à la naissance, une première fois. Pauline meurt une deuxième fois, je suis séparée. Et dans mon roman, dans mon récit de Pauline et moi, je remets nos poupées ensemble et je vais les enterrer sur le terrain à Saint-David-de-Falardeau, sur le terrain de notre enfance au bord du lac Clair. Et ça, je l'ai vraiment fait, là. Tu sais, c'est comme la poupée est enterrée au pied d'un bouleau.
Parce que c'était la marraine de Pauline qui vous avait remis à toutes les deux une poupée russe, et puis ça n'avait pas fait l'affaire de votre soeur Pauline.
Ah oui, tu vois, là je me souviens pas, j'ai écrit ça, ouais.
Oui.
Oui, ok.
C'est ça, votre tante qui était aussi...
Mais c'était sa marraine, oui, oui.
Alors pour elle, que vous receviez aussi une poupée russe, c'était une façon, comme si elle perdait l'exclusivité.
C'est ça, mais Pauline, elle a toujours été à la recherche de l'exclusivité. Puis dans les couples gemellaires, à chaque fois que je regarde un reportage, un documentaire là-dessus, surtout des jumeaux qui sont pas pareils, qui sont dissemblables, on dit ça, ça apporte une expression, là, on retrouve ça beaucoup. Il y en a toujours un des deux ou une des deux qui veut fusionner, puis l'autre veut s'émanciper. Et nous, ça a été notre cas. Pauline voulait fusionner avec moi.
Et vous vouliez vous émanciper,
oui. Oui, oui.
Vous avez écrit là, à la toute fin de Pauline et moi, puis ça revient à ce que vous venez de dire. Au crépuscule, j'irai préparer, sous une table de bouleau, un nid de mousse et d'aiguilles de pin pour y déposer nos poupées russes, réconciliées à jamais. Alors, ce qui fait que les poupées russes, c'est le symbole de votre réconciliation ultimement.
Oui, absolument.
Puis, est-ce que... comment, parce que ce qu'il faut qu'on dise aussi, c'est que le jour de votre 60e anniversaire à Pauline et à vous, le 12 mai 2010, vous n'êtes pas ensemble. Parce qu'à ce moment-là, ça ne va pas très bien avec elle depuis plusieurs années.
Ouais.
Vous vous retrouvez à Boston, aux États-Unis, avec des amis, alors que vous savez que votre sœur est extrêmement malade et que sa vie tire à sa fin. D'ailleurs, elle va décéder quelques mois à peine plus tard. Le récit de Pauline et moi que vous avez publié il y a 5 ans, 5 ans après la mort de Pauline, aborde cette relation très difficile avec votre sœur. La sachant très malade et qu'elle ne voulait pas vous voir, est-ce que c'est... ça, j'imagine que c'est confrontant pour une sœur jumelle?
Bien, c'était difficile, mais j'avais commencé à faire mon deuil, tu sais, parce que je savais que Pauline allait mourir, mais comme Pauline ne voulait pas me voir, j'ai commencé à faire mon deuil. Puis, tu sais, on peut aimer les gens même de loin. C'est pour ça que les gens qui ont besoin de se réconcilier, moi j'appelle ça la réconciliation des cœurs, on peut le faire même après qu'une personne est décédée. Parce que c'est d'abord en nous que ça se travaille, que ça guérit. Il faut d'abord le faire en soi pour être capable de le faire avec l'autre. Alors, non, puis moi je pense que le fait d'avoir pu réaliser ce chemin du deuil et de la réconciliation des cœurs, année après année, en tout cas les 5 dernières années, ça fait que quand j'arrive à son chevet au moment où elle est mourante, 3 jours avant sa mort, je suis vraiment capable de... C'est un cadeau. J'aimerais ça te lire un extrait. Je peux maintenant te le lire parce que l'extrait que... Tu m'avais demandé de choisir un extrait, puis j'ai choisi celui-là. Tu vois, tu m'amènes bien à mon extrait. Alors, c'est à la page 31, je dis « J'attends un instant avant de franchir le seuil. Surtout être vigilante, me préparer à toute éventualité. Prudemment, le cœur cognant dans la poitrine, je m'avance et referme le rideau derrière moi. Cette fois, j'ai répondu à l'appel. Je suis là pour faire mes adieux à ma sœur mourante. Ma belle Pauline, toi que je n'ai pas revue depuis 5 ans, toi, allongée sur cette civière, déjà ensevelie dans un coma tranquille. Je frôle délicatement ta chevelure devenue blanche qui n'enlève rien à la jeunesse de ton visage qui, miraculeusement, a retrouvé l'insouciance de nos tendres années. Pourtant, tu viens de traverser une dépression profonde et un cancer du sein qui t'achemine aujourd'hui vers la mort, cette mort que tu as appelée, toi, si fatiguée de vivre, épuisée à tenter d'amadouer les démons qui depuis trop longtemps te harcelaient sans répit. Je te vois enfin apaisée. Laisse-moi embrasser ton front comme on le fait pour une enfant malade que l'on veut réconforter. Ma petite, ma Flavie Pauline, mon enfant, ma sœur. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir. Parce que moi, là, quand je suis arrivée là, pour vrai, là, la première chose que j'ai faite, c'est que je lui ai pas parlé, en fait. Je me suis mis à chanter.
Parce que quand vous l'aviez revue, là, c'est ça faisait 5 ans que vous ne l'aviez pas revue.
Mm-hmm.
Puis vous vous retrouvez à un moment donné dans le même hôpital pour un tournage.
Ouais.
Le destin est quand même assez puissant. Hein?
Oui, les synchronicités, moi, dans ma vie, ont toujours été très fortes pour toutes sortes d'aspects, beaucoup liés à mon travail. Et dans le cas de Pauline, c'est absolument remarquable. C'est pour ça que moi, je crois au destin, je crois à la vie après la mort. Je crois que notre âme se manifeste. Et Pauline s'est beaucoup manifestée juste avant de partir et après sa mort. Ce qui fait que moi, je suis en tournage... comment ça s'appelle, à Louis-Hippolyte Lafontaine. Et Pauline est hospitalisée là depuis 3 semaines parce que, en fait, elle avait des métastases au cerveau et était devenue incohérente et tout. Et mon frère et ma sœur l'avaient hospitalisée là. Et moi, je suis en tournage et je sais que Pauline est là. T'sais. Puis j'ai le goût d'aller la voir, mais J'ose pas parce que j'ai trop peur de sa réaction, qu'elle me rejette ou bon, en tout cas. Puis là, je passe les détails. Là, ceux qui voudront connaître un peu plus les détails liront le livre. Et le lendemain, je dois prendre la route pour un festival où je suis porte-parole à Baie-Saint-Paul et je vais recevoir un appel téléphonique. Puis on va me dire, là, Pauline vient d'être transférée à Notre-Dame. Puis là, c'est ça. Ça, c'est la fin, là. Fait que là, je vais rebrousser chemin, puis là, c'est là que je vais arriver à son chevet, ce que je viens de vous lire, tu sais.
Vous la saviez pas autant malade?
Ben, c'est-à-dire que
Quand vous êtes à
oui.
Boston, par exemple, là, avec des amis, au mois de mai, puis après
Non, elle
ça,
n'est pas mourante,
c'est ça.
elle a un
Vous savez
cancer,
que...
mais elle est toujours dans son appartement, puis mon frère, mes sœurs prennent bien soin d'elle, puis moi, de loin, ben, je suis avec la famille, là.
Parler de l'appartement, ça a été difficile pour vous de retourner à cet appartement-là, hein?
Oui.
Racontez-moi qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes retourné à l'appartement de Pauline,
Oui.
parce que là, vous vous imaginiez tout ce qu'elle avait pu regarder à l'extérieur, puis vous même vous quittez encore une fois en chantant.
Oui.
Comment vous vous sentez à ce moment-là, parce qu'elle a été absente de votre vie depuis 5 ans à ce
Oui.
moment-là?
Ben d'abord, être au chez nous des artistes, mais j'ai trouvé qu'elle avait un bel appartement, elle avait vu, elle voyait loin, tu sais, c'était pas étouffant. Puis je retrouvais en fait tout. Je la retrouvais, elle, parce qu'il y avait tous ces objets, tu sais, d'elle qui étaient autour. Mais là, c'est faire le tri, hein, faire le tri de ces choses. Puis là, je trouve ça drôle parce que c'est ma sœur Priscilla qui était dans la chambre. Puis là, elle ouvrait des sacs. Puis là, elle prenait un vêtement, Priscilla. Puis là, elle pouvait passer là, 10 minutes à regarder le vêtement. Mais là, tu sais, il fallait qu'on bouge, là. Fait que là, j'ai dit, Priscille, garde, mets tout ça dans un sac, puis apporte le sac chez toi, puis ce que tu gardes pas, on le donnera. Puis d'ailleurs, c'était le fun parce que, tu sais, Pauline, elle a aidé plein de monde dans son départ. Tu sais, ses meubles, ils ont meublé l'appartement d'un ami, toutes ses belles robes, on a toutes donné ça à sa gang d'amis de femmes de Rimouski. Les pleurines, là, qu'elles appelaient les pleurines. Des fois, quelqu'un venait cogner à la porte puis voulait avoir telle affaire, tu sais, aussi, tu sens une intrusion un petit
Puis
peu,
ça
tu
vous a rendu un peu, vous avez été fâché de ça aussi quand, parce que les gens savaient qui c'était, qui vous
Ouais.
étiez. Ça vous a rendu frustré. Comment vous avez vécu tout au long de votre vie tumultueuse? Parce que quand on a annoncé votre venue pour le balado, les gens ont beaucoup fait référence à Pauline et à vous.
Ben oui.
Comme si, oui, bon, par le livre de Pauline et moi, bon, mais comment vous avez vécu vos conflits à travers les années, sachant que les deux vous étiez connus?
Ben, c'était comme une histoire d'amour. Tu sais, c'est comme un couple qui est en amour, mais qui a beaucoup d'adversité. Fait qu'ils se séparent, ils reprennent, ils se séparent, ils reprennent. Pauline puis moi, c'est ça. Pauline, c'est un grand amour dans ma vie, mais un amour qui a été difficile parce que c'était une personne qui était souffrante. Et puis, dans son tempérament, tu sais, Pauline, à 12 ans, a fait déjà une dépression. Quand je retrouve son journal intime, par encore une autre synchronicité, j'apprends qu'elle dit qu'elle est au désespoir, puis elle écrit ça, puis elle vient juste d'avoir 13 ans, tu sais. Donc, j'ai vu que Pauline, c'était une longue histoire, puis c'est pour ça que Pauline était si flamboyante, puis drôle, parce que ça cachait, c'était sa manière à elle de cacher, tu sais, la souffrance intérieure. Elle a eu des amours difficiles, dans les amitiés, ça a été la même chose, mais les gens l'ont adorée parce que Pauline, il y a beaucoup de gens qui pouvaient s'identifier à elle, parce que dans notre monde, il y a beaucoup de souffrance. Puis comment on gère notre souffrance, tu sais? Bon, il y en a qui boivent, il y en a qui mangent, il y en a qui dépensent, qui magasinent. Il y en a qui ont des addictions à la sexualité. On trouve tout. Moi, j'ai eu l'écriture. Tu sais, si j'avais pas eu mon métier puis l'écriture, je sais pas comment. Tellement sensible, je suis tellement sensible. Pourtant, on a eu une belle vie de famille et tout, mais il y a personne qui est à l'abri de cette souffrance que tout le monde vivre, c'est une grande aventure, mais c'est pas
Puis à un
facile.
moment donné, il a fallu que vous lâchiez prise, puis que vous dites, ben, je suis impuissante face à la souffrance de
Ouais.
Pauline. Mais dans le livre Pauline et moi, qui est un livre sur le deuil. Vous avez, à de multiples reprises, bon, c'est... Est-ce que vous auriez accepté que Pauline lise ce livre-là?
Mais elle l'a lu. Elle l'a lu dans l'au-delà, parce que moi, à tout bout de champ, je m'arrêtais d'écrire, puis je disais, Pauline, tu sais, je prenais mon cahier, j'ai écrit tout, le premier jet, toujours à la main, de mes livres, de mes romans, de mes récits. Puis là, je mettais le livre sur mon cœur, puis là, je parlais à Pauline même à haute voix, puis je disais, Pauline, dis-moi, là, c'est-tu correct que je continue? Tu sais, c'est... En tout cas, ça me fait du bien. Puis, tu sais, je veux te rendre hommage, mais en même temps, je veux que ce livre-là puisse aider aussi d'autres mondes qui traversent des épreuves de séparation, des difficultés familiales. Puis à chaque fois, j'ai eu un signe, tu sais, un appel, une lettre qui est arrivée, puis je me disais, bon, Pauline vient de se manifester, tu sais. Fait que je suis certaine de ça, puis c'est un livre, de toute façon, il n'y a aucune rancune dans ce livre-là, il y a juste une lettre très dure que je lui écris à un moment donné, parce que là, il faut qu'il y ait une rupture, je sais pas, je suis au début de la trentaine, là, puis elle a été très dure avec moi, fait que je suis très dure avec elle, mais c'est la seule lettre dans le livre qui est comme ça, sinon, tu l'as lu, le livre, Guillaume, c'est un livre qui montre aussi toute sa bienveillance, sa générosité, même des fois trop. C'était une femme qui aimait trop. Son humour, son talent. Elle avait un immense talent de comédienne. Alors, c'est un livre sur le deuil et la réconciliation, mais à la fois un livre en hommage aussi à qui elle était.
Mais c'est ça, pour venir à votre vie publique avec votre sœur, là, vous dites que c'était comme une histoire d'un couple qui se réconciliait, puis bon... Vous avez une anecdote sur votre 51e anniversaire à vous et à Pauline.
Ah oui, je t'ai dit, je te raconterai ça à Pouénégamouk. OK, c'est notre fête. Puis moi, je suis invitée, je viens de publier mon premier roman qui s'appelle L'Enchanté. Puis Pauline a dit, amenez-moi avec vous autres. Puis je dis, ben oui, écoute, en même temps, c'est notre fête. Fait qu'on va fêter notre fête à Pouénégamouk. Fait qu'on est logé, reçu dans une auberge magnifique. Et moi, je vais faire comme une mini-conférence dans un centre de santé, de bien-être. On va recevoir en chacune un massage, puis on fait un petit cocktail, puis moi, je vais signer des livres et tout ça. Fait que on fait ça. Puis le lendemain matin, on se lève, puis moi, je me lève beaucoup plus avant elle, parce que moi, je suis une lève-tôt, puis j'arrive dans la salle à manger de l'auberge, puis je suis avec Jacques, mon mari, puis... Tu sais, là, les gens me reconnaissent, évidemment. Puis là, je dis, ben bonjour, je parle un petit peu. Puis tu sais, mais je suis discrète. Je suis discrète parce que c'est le matin, on déjeune, tu sais. La vie publique, c'était la veille, mais là, je suis dans mon intimité, même si je suis dans une auberge. Puis peut-être, je sais pas, tu sais, comme genre une heure plus tard ou 45 minutes plus tard, il y a Pauline qui arrive, tu sais. Pauline, elle arrive, là. Salut tout le monde! Puis là, tu sais, évidemment, tout le monde, ouah, c'est Pauline Lapointe.
Elle vous laisse faire remarquer.
Ah là, tu sais, là, la grande djellaba, puis là, elle parle à tout le monde, puis tout ça, tu sais. Puis là, je la regarde aller, puis je me dis, ben ça, c'est elle, c'est sa nature. Beaucoup besoin de prendre sa place, puis d'être flamboyante, parce que besoin d'être aimée, mais aimée, là, comme ça se peut pas, tu sais. Puis après ça, on a reparlé, tu sais, puis... J'ai dit, on est vraiment différentes. Hein? Ben, dis-toi, t'es un peu snob. J'ai dit, ah oui, je suis snob. Ben, tu sais, des fois, les gens, ils me le disent. C'est ta sœur, Louise. C'est comme, bonjour, mais tu sais, très. J'ai dit, je suis pas snob, je suis discrète. C'est pas pareil, tu sais. Mais j'ai dit, toi, ça va avec ta nature. T'as beaucoup d'humour, t'es drôle, tu déplaces de l'air. C'est correct, tu sais, tu t'habilles avec des grandes robes, puis. Alors, dans ce sens-là, c'est sûr que moi, dans le couple, j'aimais là, j'étais celle qui était très raisonnable. Puis ça faisait le pendant à ma sœur jumelle qui, elle, était très comme « on tripe », tu sais. Pauline, elle disait souvent ça, son expression, c'était « on tripe comme des cochons ».
Puis quand que vous étiez vus en public, là, les deux ensemble, un peu comme vous dites... Ouais. Comment qu'elle le vivait, elle?
Elle vivait très bien, parce que quand on est allé justement à un moment donné à Québec, ça, c'était pour notre 50e anniversaire, je pense. On est allé voir, j'y avais offert comme cadeau d'aller voir le show d'Elvis parce qu'Elvis, c'était, tu sais, Love me tender, love me sweet. Ça, c'était son grand idole à Pauline. Ça avait été une fin de semaine formidable. Mais on se promenait dans les rues, puis moi, je faisais des films plutôt à cette époque-là. Puis Pauline, elle, c'était la télévision, les machos, elle faisait plein de téléromans à TVA. Fait que là, tout le monde la reconnaissait, elle. T'sais, puis moi, ben, je la regardais faire, puis je trouvais ça me faisait sourire. Parce que moi, j'ai tellement eu une belle carrière que je me suis jamais sentie en compétition avec Pauline. T'sais, puis j'ai fait ma carrière de chanteuse, puis j'ai fait plein de films, t'sais, dans notre trentaine, là, puis dans ma quarantaine. Donc, j'étais pas en reste du tout. C'est juste qu'on avait des carrières différentes. Je faisais aussi des téléromans, puis des trucs comme ça, mais. J'avais plus un rayonnement au niveau du cinéma, puis de la musique. Puis elle, ben elle, c'était beaucoup le théâtre. Elle a fait beaucoup de théâtre, Pauline, les théâtres d'été et la télévision. Donc, non, c'était parfait. On avait eu une fin de semaine de rêve.
Parce que Pauline, en fait, à un moment donné, elle vous a avoué qu'elle voulait devenir comédienne
Oui,
aussi.
oui.
Ça a été quoi votre réaction? Vous l'avez bien pris, hein, à
Ah,
l'époque?
oh, moi, j'étais tellement contente parce qu'elle est. Elle était venue à Montréal faire son cours chez Edith Soré parce que Pauline, elle adorait les produits de beauté. Pauline, elle rentrait chez Jean
Ben, elle
Coutu,
voulait
puis,
être esthéticienne, hein,
ben,
c'est
c'est
ça.
ça. Elle rentrait chez Jean Coutu pour acheter, ben, je sais pas, moi, une brosse à dents, puis elle sortait, puis elle avait acheté pour 300 $, tu sais. Elle adorait ça, puis là, elle disait tout le temps, ben, maintenant, mais gars, c'est parce que pour 50 $, je pouvais avoir une trousse, puis regarde les produits qu'il y a dedans. En tout cas, quand on a vidé son appartement, il y avait des trousses de make-up, mais. Dans tous les tiroirs. Mais un jour, c'est elle qui nous maquillait au théâtre amateur à Chicoutimi. Puis un jour, elle m'a dit, je pense que j'aimerais ça être une comédienne, mais j'ai jamais osé parce que je voulais pas que le monde pense que je fais comme tout, que je veux faire comme toi. Mais j'ai dit, Pauline, t'as le droit. En plus, t'as un tempérament de feu, tu sais. Fait que je l'ai aidée à préparer son audition, puis elle a été acceptée, elle, tout de suite à l'École nationale de théâtre.
Louise, on parlait tantôt de synchronicité, puis le destin, puis au moment où vous vivez le décès de Pauline, vous avez décroché un rôle donc de Pauline dans le téléroman Destinée, un téléroman qui a eu un énorme succès. Le titre de l'émission et le prénom donc de votre rôle, selon moi, il n'est pas banal dans le contexte que vous avez vécu. Est-ce que c'est un pur hasard de destin ou si on vous attribue le rôle de Pauline dans Destinée parce qu'on savait que, j'imagine que non, c'est vraiment,
Non, non,
c'est
parce
arrivé au
que,
pur hasard, là.
ben oui, parce que Pauline meurt un lundi soir et le mardi matin, je commence ma première journée de tournage pour
Puis vous ne
Destinée.
voulez pas ébruiter trop que Pauline est décédée à ce moment-là, hein?
Non.
Donc, vous commencez le tournage le mardi,
Oui.
mais vous étiez dans quel état à ce moment-là?
Alors, j'ai juste parlé à la directrice de production qui était là pour lui dire que si jamais elle voyait que j'étais un peu trop émotive, qu'elle sache pourquoi. Puis j'ai dit là, je me sens pas prête à annoncer ça à l'équipe parce que je veux pas que tout le monde me regarde bizarrement toute la journée. J'ai dit, c'est ma première journée de tournage, mais j'ai dit, inquiétez-vous pas, on est pro, puis on va passer au travers. Puis ça s'est très bien passé parce que dans le fond, j'ai senti que Pauline me portait parce qu'en plus, alors le réalisateur, lui, au lieu de m'appeler, bon, Louise, vous allez vous placer ici, il m'appelait Pauline tout le temps, Paul, tu sais, le réalisateur. Puis moi, je trouvais que c'était parfait, tu sais. Puis Louis-Georges Girard, qui était mon partenaire. Alors ça, c'était pas mal beau aussi, parce que là, Louis-Georges, il avait déjà joué avec Pauline au théâtre d'été. Puis là, il jouait pour la première fois avec moi. Puis là, des fois, il avait l'impression d'entendre Pauline, puis dans mes mimiques, puis tout ça. Puis là, lui, il me disait ça, tu sais. En tout cas, le lendemain, j'ai pris Louis-Georges à part, puis je lui ai dit que ce qu'il en était. Puis là,
Il était pas au
lui,
courant du décès de
non.
Pauline.
Pas encore, parce que c'était pas sorti encore dans les journaux, puis au téléjournal et tout ça. Fait que là, tout le monde l'a su, mais à partir du mercredi, ouais.
Puis ce rôle-là de Pauline vous a suivi pendant plusieurs années.
Ben, je pense on l'a tourné quand même pendant 3 ans, là. Il restait 3 saisons à
On vous en
faire.
parle encore aujourd'hui de Pauline dans Destinée?
Non, pas
Non?
vraiment, parce que, ben là, tu sais, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de monde depuis 1 an et demi, là. Non, moi, c'est parce que maintenant, je rencontre les gens beaucoup dans les salons du livre. Et puis, les gens, ben, ils me parlent des dernières productions. Ils vont me parler de 19-2, ils vont me parler de Trop, ils vont me parler de Paul à Québec. L'autre jour, j'ai eu un témoignage tellement extraordinaire. J'ai une jeune femme qui s'est arrêtée, puis elle m'a dit, je viens de perdre ma belle-mère, puis elle a dit, toute la famille, on s'est réunis, puis on n'écoutait pas la Québec, puis elle dit ça, avec nos jeunes enfants, puis elle dit, ça nous a tellement aidés à expliquer à nos enfants que, bon, tu sais, grand-papa, votre grand-papa, il est décédé, puis tout ça. Elle dit, ça a été un moment de fusion avec toute la famille. Mon Dieu, que j'ai trouvé ça beau. Tu sais, fait que je me dis, des fois, on ne sait pas, hein, le chemin qu'une œuvre peut faire. C'est la même chose pour une chanson ou pour un livre ou pour un film ou un personnage à la télé.
Parce que votre rôle dans Pôle à Québec, vous avez beaucoup d'enfants, des petits-enfants et tout ça. Est-ce que pour vous, c'est une façon d'avoir ce que vous n'avez pas eu,
Oui,
d'avoir?
sublimé, hein?
Oui.
Oui, ben c'est sûr, quand François Bouvier, le réalisateur, m'offre le rôle de Lisette dans Paul à Québec, écoute, je dis à François, cadeau, là, cadeau, 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 en plus avec Gilbert, que j'adore. J'ai fait plusieurs tournages avec Gilbert Scott. Puis là, quand je vois, toi, la talle, toi, de fille que j'ai, là, tu sais, Julie, puis après ça, voyons, comment qu'elle s'appelle, Brigitte, puis... En tout cas, il y a bien des noms, mais en tout cas, j'ai trois belles filles puis trois beaux gendres, j'ai cinq petits-enfants là-dedans. Écoute, ça a été un tournage là, mémorable. Et c'est un film magnifique.
Est-ce que pour vous, c'est difficile encore aujourd'hui, ou est-ce que ça l'a déjà été de ne jamais avoir eu d'enfant?
Non, ça n'a pas été un manque ou une épreuve. Bon, c'est sûr qu'il y a eu des années où là, parce que moi, j'ai été enceinte deux fois, j'ai fait deux fausses couches, et la deuxième fausse couche, j'étais enceinte de Jacques. Donc, c'est sûr que nous autres, on trouvait ça extraordinaire, là, tu sais, d'attendre un enfant. Puis bon, j'ai fait une fausse couche un 14 février, je pense. Mais on a fait un rituel, Jacques a écrit une poésie, tu sais, c'est resté beau, là, tu sais,
Mais la
comme...
deuxième fausse couche a été plus difficile parce que vous aviez eu l'impression de rencontrer l'homme idéal pour vous.
Ben oui,
C'est ça?
je savais que Jacques serait un père extraordinaire, mais j'avais quand même déjà 43 ans à ce moment, 44 ans à ce moment-là. Et puis, mais j'ai accepté parce que pour moi, ces naissances-là, c'est comme des anges. Je me dis, ah, cet ange-là est venu faire quelque chose dans ma vie, mais il est reparti, tu sais. Et puis, tu sais, j'ai été gâtée quand même, Guillaume, là, parce que tous les projets que j'ai faits, j'ai eu des enfants dans des films et des séries que j'adore, tu sais. Tu sais, Catherine Trudeau, Marie-Chantal Perron, Sébastien Ricard. Écoute, mon dernier en liste, c'est Luc Picard dans son film Confession qui n'est pas sorti encore. Je fais sa mère, imagine-toi donc, à 58 ans, puis à 80 ans. Je fais deux périodes. Tu sais, ça a été vraiment un beau projet. Dans le film de Ricardo Trogi, Le guide de la famille parfaite, j'ai une participation ben, pas très grande, mais on fait les parents, Gilles Renaud et moi, de Louis Morissette. T'sais? Fait que la vie, ça nous offre des cadeaux comme ça. Alors, moi, t'sais, comme là, en ce moment, j'accompagne une jeune actrice écrivaine qui finalement est depuis le début de la pandémie, en Argentine. Je suis un peu comme son mentor. Fait que je lui écris des lettres. Mais électronique, là. Puis là, on s'est fait un petit zoom cette semaine. Tu sais, il y a mille et une façons d'être proche de l'autre génération, même si toi, tu n'as pas d'enfants ou de petits-enfants. Puis j'ai des neveux, j'ai des nièces que j'aime beaucoup, que j'affectionne. Donc, c'est venu, en fait, combler mon cœur, je dirais. Ouais.
Puis ce qui est particulier aussi, c'est que, comme vous dites, les enfants qui vos enfants fictionnels, les enfants
Oui.
que, bon, entre autres Marie-Chantal Perron et tout ça, ils vous ont fait toute une surprise la
Oh.
première fois. Mais ça prouve que c'est dans les deux sens, que vous avez été autant
Oui.
importante pour eux que eux l'ont été pour
Oui.
vous.
Ça, je me fais dire souvent ça, même comme écrivaine maintenant. J'ai un projet avec un auteur que je trouve formidable. Et puis, je ne veux pas trop donner de détails, mais je lui ai demandé de participer à un projet. Puis lui, il m'a toujours dit que dès sa première publication, j'ai eu comme une présence à ses côtés quand on signait et tout ça, qui l'a rassuré, qui lui a fait du bien. Mais j'ai toujours été comme ça sur les plateaux de tournage aussi. Tu sais, quand un jeune comédien ou une jeune comédienne était dans leur début. Parce que moi, j'ai eu du monde qui m'ont aidé quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé. On a besoin de mentorat. Puis pas besoin de te dire que moi, j'ai suivi Star Academy, puis j'ai trouvé que les trois professeurs étaient extraordinaires, tu sais. Fait que parce que moi, qui ai 50 ans de métier, je le sais c'est quoi faire ce métier-là, puis j'ai trouvé qu'eux autres avaient fait un super accompagnement pour des jeunes qui espèrent, aspirent à faire ce métier-là, mais qui n'est vraiment pas un métier facile. J'ai trouvé qu'ils avaient fait un accompagnement de première, c'est 5 étoiles.
Vous dites que ce n'est pas un métier facile. Effectivement,
ouais.
Vous avez joué dans le théâtre d'été Pin Blanc à Saint-Mathieu-de-Belleuil, il y a quoi, 2 ou 3 ans?
Je pense
l'été 2018.
Oui.
Et est-ce qu'en vieillissant, c'est un peu plus difficile parce que c'est un rythme très effréné, des représentations, mm-hmm. tout le temps. Comment vous vivez? Parce que en vieillissant, peut-être qu'on a le...
Le théâtre,
ouais.
Moi, le théâtre, ça a toujours été de façon ponctuelle. Quand on m'a présenté Pain Blanc, ça faisait vraiment des années que je n'avais pas joué au théâtre, mais j'ai aimé la pièce, j'ai aimé savoir que Mélanie Ménard serait ma fille, j'ai aimé rencontrer le metteur en scène, ça a fait oui tout de suite, puis je ne le regrette pas, ça a été un été extraordinaire avec tous nos partenaires qui jouaient avec nous, et puis j'ai fait ça, après ça j'ai fait une production que j'ai beaucoup aimée aussi dans un théâtre à Sherbrooke, qui est une compagnie théâtrale, mais locale, mais professionnelle, L'île aux sabots, qui est une création de Patrick Quintal, que j'ai adorée. Et là, je viens d'accepter de jouer l'hiver prochain, fait que je m'en vais pas au Mexique, parce que je répète, et ça va être une production qui va avoir lieu au Saguenay. Mais là, je garde un peu le secret, parce que mais c'est très particulier, très intéressant, et c'est quelque chose qui m'anime. C'est quelque chose qui est venu rejoindre, toucher quelque chose en moi, puis c'était comme ça a fait oui. Parce que maintenant, Guillaume, à l'âge que j'ai, puis ceux qui nous écoutent le savent, ça fait oui ou ça fait non. Et puis maintenant, on choisit les choses qui nous animent, qui nous font grandir, qui nous apportent du bonheur puis de la joie. On n'est plus là pour être aimé à tout prix, pour faire plaisir aux uns et aux autres. On fait des choix, en fait, tout le temps. Mais moi, j'ai toujours été assez bonne. J'ai fait pas mal de choix, mais j'ai toujours suivi mes élans puis les appels, tout le temps.
Vous dites que Pauline a fait beaucoup de théâtre d'été aussi. Quand vous avez fait Pain Blanc, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas fait de théâtre d'été, entre autres. Est-ce que elle était en vous quand vous jouiez? Parce que je sais qu'elle est tout le temps en vous, là.
Oui.
Vous dites un peu moins depuis un certain temps, beaucoup plus quand elle est décédée. Quand vous avez fait Pain Blanc en théâtre d'été, est-ce que vous la sentiez près de vous?
Oui, ça, c'est bon que tu parles de ça, parce que ça, j'avais comme oublié, mais c'est vrai que des fois, je repensais à Pauline qui avait passé tellement d'été, même à un moment donné, elle était fatiguée, là, parce que c'est exigeant faire un théâtre d'été. Des fois, tu fais 2 représentations, puis moi, le rôle que j'avais dans Pain Blanc, mettons qu'il était très exigeant, mais fabuleux, mais j'ai tellement passé un bel été. C'était tellement plaisant, là. Je voyageais avec François-Étienne Paris, puis écoute, je faisais mon petit lunch, là, puis je mangeais juste après le show, là, dans l'auto avec lui, là. C'était vraiment plaisant.
Mais ça ressemble à quoi, une routine de théâtre d'été? C'est...
Ah, ben la routine, écoute, tu prends une petite bouchée, comme, mettons, à 4 heures, là, mais puis c'est léger, il n'y a pas question de boire un verre de vin, puis tout ça. Puis là, ben t'arrives au théâtre, on jouait à 8 heures, je pense, fait que t'arrives au théâtre vers 6h30, puis là, ben tu te maquilles, puis là, moi, j'étais dans la loge avec Mélanie, fait qu'on s'entendait très, très bien. Puis là, des fois, on répétait des petites scènes, là, tu sais. Puis des fois, on allait dans la loge des garçons, puis on se faisait une petite italienne, là. Puis après ça, ben tu vas sur la scène, puis là, tu regardes tous les accessoires. Puis là, c'est comme si... Moi, c'était mon chalet, hein, c'était le chalet de mon personnage, tu sais. Fait que là, c'était comme j'allais m'imprégner du lieu, tu sais. Puis c'est drôle parce que dans cet été-là, c'est l'été suivant, je me suis acheté le chalet au Saguenay. Tu sais, c'est comme si... Tu sais, on parlait des synchronicités tantôt. Ben c'est comme si la vie m'avait préparé à m'acheter un chalet. Parce que c'est la première fois que je m'achetais un chalet de toute ma vie.
Un retour aux sources, finalement.
Mon retour aux sources au Saguenay. Tu sais, à la voisin du terrain de mon enfance, il faut le faire, là.
En feriez-vous d'autres des théâtres d'été, si on vous en offrait?
Moi, je me dis que... On ne sait jamais, mais peut-être que là, vu que j'ai un chalet, pour le moment, j'ai un chalet au Saguenay, je prendrais peut-être plutôt quelque chose au Saguenay, mais tu sais, je ne jouerais plus là, 6 soirs par semaine, puis des affaires comme ça. Là. C'est un peu exigeant, tu sais. On vient un peu fatigué, ouais.
Dans une lettre que vous avez écrite à votre père défunt, datée du 12 mai 2005, le jour de votre 50e anniversaire, vous avez dit que J'emprunte le dernier quart peut-être du chemin de ma vie. Je n'ai pas de vision claire de ce qui m'attend. Je sais seulement que quelque chose en moi se recueille et se prépare à une nouvelle étape. Le rythme change. Je suis de moins en moins pressé d'arriver. J'ai le goût de prendre mon temps, de retenir les heures, observer la mort qui s'installe doucement. Je veux la voir venir, m'y préparer. À quel stade vous êtes actuellement par rapport à ce que vous avez écrit en 2005?
Ben là, j'étais visionnaire parce que avec la pandémie, j'ai du temps. Ça fait un an et demi que j'ai pas été sur un plateau de tournage, à part une petite entrevue avec Sébastien Diaz, puis une autre avec Marc Labrèche. Là, j'ai un tournage, cet été, je vais avoir tourné un petit court-métrage en Gaspésie. Donc, la vie m'offre beaucoup de temps, puis beaucoup de temps de qualité pour écrire, pour me déposer, puis justement faire une réflexion sur... Là, je suis en train, il y a plein d'affaires qui se passent qui me font revisiter ma vie. Puis je cours pas après, ça arrive comme ça. Il y a eu la rétrospective en avril des films de Claude Gagnon, mais j'ai revu un film que j'ai fait, j'avais 31 ans, c'est La Rose, Pierrot et la Luce. C'est quelque chose, tu sais, à 71 ans, de se voir à 31 ans à l'écran. Puis j'ai été enchantée de ce que j'ai vu. Le film est bon, je me suis trouvée juste, sincère. J'ai aimé ça, tu sais. Puis je me suis dit, ah ben gardons ça, tu sais, t'étais déjà comme ça à 31 ans. Puis là, deux jours après, il y a Robert Maltais qui m'envoie une photo. Puis c'est une photo des Beaux Dimanches, du film qu'on a fait. Alors, c'est lui et moi, parce qu'il faisait mon chum là-dedans. Puis il me dit, c'est le fils de Richard Martin, qui était notre réalisateur, qui m'a envoyé cette photo-là. Fait que là, je me vois dans une scène avec Robert.
C'est ça, c'est une façon de vieillir avec vos camarades. Puis dans Il pleuvait des oiseaux, en 2019, vous avez joué aux côtés d'André Lachapelle. Est-ce que vous la saviez malade à ce moment-là parce qu'elle est décédée quelques temps après?
Oui, elle est décédée en fait quand même un an plus
tard.
Oui,
c'est vrai. Oui. Elle est décédée parce que c'était déjà tourné.
Non, au moment où on tourne, André, elle n'est pas malade. Elle va bien. Elle s'est bien préparée pour le tournage. Puis finalement, ça lui a pris du temps à dire oui, mais contente. Alors, ça a été extraordinaire. Ça m'a permis d'avoir au moins un entretien avec elle dans sa chambre parce qu'on avait des chambres voisines. Où est-ce qu'on tournait. Ça, je crois que c'était à Mégantic. Ensuite, on s'est vu sur le plateau, puis ça a été comme merveilleux. Puis la dernière image que j'ai d'André, c'est quand on a fait le party de production. Donc, on tourne tout l'été, puis le party de production arrive vers la mi-septembre. Et puis, André arrive, puis là, elle arrive de chez le coiffeur. Écoute, elle est rayonnante. Puis elle est tellement contente d'avoir fait le film, tu sais. Et non, je pense que c'est une façon de tirer sa révérence avec tellement d'élégance. Moi, je me souhaite ça, là. D'avoir un dernier grand rôle comme ça, magnifique, porteur d'amour, d'humanité, de sensibilité. Écoute, c'est un film tellement remarquable.
Parce que vous dites aussi que chaque décennie, dans votre cas, s'accompagne d'un rôle qui est marquant.
Oui.
Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre septième décennie?
Bien, là, ce qui se pointe, c'est le rôle au théâtre que je vais faire, qui est très particulier. Je vais faire le rôle d'une grand-mère autochtone. Ça, je peux vous dire ça. Donc, c'est très particulier pour moi de faire ça. Mais ça vient vivre. Moi, il ne faut pas oublier que mon premier roman, publié en 2001, ça commence comme une petite indienne joufflue court dans la forêt. Sa mère malade vient d'ouvrir les yeux.
Encore une fois,
Ben oui. Puis aussi, c'est parce que je suis en train d'écrire un roman et le personnage principal, c'est une grand-mère autochtone, tu sais.
Puis ce rôle-là, il est venu comment, le rôle dont vous parlez?
C'est quelqu'un qui a pensé à moi puis qui m'a approché pour ça.
Louise Portal, vous dites que dans les familles, il y a beaucoup de non-dits, qu'il y a des secrets. Et... un jour, vous avez ressenti le besoin de lever le voile sur un secret de famille qui n'est pas banal. Il concernait votre père Marcel, puis ceux qui veulent avoir plus de détails pourront lire vos livres, entre autres le livre que vous avez publié en 2005, Les mots...
L'actrice.
Oui, puis vous avez publié ensuite les correspondances avec votre père.
Les mots de mon père.
Avec les mots de mon père. Qu'est-ce que vous pensez des secrets de famille? Puis je pense même que vous avez un petit extrait.
Oui. Ben, les secrets de famille, hein, d'abord, toutes les familles en ont. Et puis, c'est un poids et une lourdeur parce que tout ce que notre famille vit s'inscrit en nous, dans notre parcours de vie. Mais bon, chaque chose en son temps, chaque chose à dire. Alors moi, bien, j'ai voulu comme aborder ça parce que ça a eu beaucoup d'incidence dans ma vie. Alors, je vous lis simplement un petit extrait sans rentrer dans les potins et les détails. Alors, la double vie de mon père, cachée, secrète, éprouvante, aura marqué ma quête de désir et de passion. Je serai souvent attirée par ces hommes dont l'amour m'était inaccessible, mais pour qui je ressentais le même lien affectif qu'avec mon père. Peut-être aussi ne voulais-je pas que Marcel perde cette place unique que je lui réservais dans ma vie, un complexe d'Édipe longtemps questionné. Heureusement, j'ai pu accueillir mon père dans sa différence à une époque où ce n'était pas si facile. J'ai pu comprendre son tourment et être témoin aussi de l'amour entre mon père et ma mère. Merci Marcel, merci papa. Alors ça, c'est un extrait de Un été trois grâces que j'ai écrit en collaboration avec mes deux amies comédiennes, Christiane Pasquier et Marie-Lou Dion.
Et ce secret de famille-là, comment a été vécu par votre fratrie, par votre frère,
Ah, ben
par vos
chacun,
sœurs?
oui, ben chacun a à un temps donné, a pu avoir, c'est bien ça, une conversation avec papa pour que justement se dénoue cette tension que mon père vivait. Parce que vous savez, quand on vit à une époque où tout est tabou et on ne peut pas rien dire et rien adresser, là, on parle des années 50, là, t'sais, puis des années 60, l'Église, la religion. Alors aujourd'hui, on est dans un Québec tellement plus ouvert, tellement plus respectueux. Mais pour nos pères, puis nos mères, nos grands-pères, nos grands-mères, c'était des époques très difficiles parce qu'il n'y avait pas cette liberté d'expression. Alors, non, nous, on avait un père qui était très ouvert et puis plein d'humanité, plein de bienveillance. Et avec papa, on a pu adresser. Mais papa n'a jamais pris les devants. Il fallait que ce soit l'enfant qui, à un moment donné, par un concours de circonstances ou une anecdote, puisse adresser, en fait, un aspect de la vie de papa qui était, en fait, somme toute, caché. Et puis là, il était révélé à un enfant, puis à un autre. Et puis ça s'est bien passé.
Vous prenez la décision de publier, par exemple, les correspondances, puis même votre histoire avec Pauline. Priscilla a aussi eu une vie publique. Dominique un peu plus dans l'ombre en communication quand même.
Oui.
Comment ils vivent le fait que vous publiez des
Ben,
éléments très personnels de votre vie, mais aussi de leur
moi,
famille? Ouais.
ben, Dominique, je ne sais pas parce que je pense que mon frère, il lit pas mes livres. Mon frère, c'est un scientifique, puis c'est comme s'il veut pas aller dans ces zones-là. Fait que moi, mon frère m'a jamais donné de feedback sur aucun de mes livres. Alors, voyez-vous, quand on est écrivain, il ne faut pas s'attendre que c'est les gens les plus proches qui vont nous lire. Par contre, ma sœur Geneviève, qui écrit également, Priscilla, qui a écrit des chansons, eux autres lisent mes livres, puis m'en parlent. Même si des fois c'est longtemps après, alors Pauline et moi étaient très, 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 très bien reçus. Et puis un été trois grâces aussi, il n'y avait pas de souci. Non, parce que je crois que je fais jamais de règlement de compte dans mes livres quand ils sont plus autobiographiques. Puis c'est toujours la bienveillance qui l'emporte. Pour moi, c'est super important parce que je n'ai pas besoin d'aller régler des comptes. Moi, je suis bien avec la vie que j'ai eue. Je suis bien dans mon cœur. Je suis bien dans ma vie. Tu sais, c'est quelque chose, Guillaume, d'arriver à 70 ans passés, puis de se dire que j'ai eu la chance de m'exprimer, j'ai eu la chance dans différents volets artistiques, j'ai finalement, à 43 ans, rencontré le grand amour que j'espérais de toute ma ferveur, tu sais, depuis ma jeune vingtaine, toi, t'as 25 ans, tu sais, à 25 ans, on veut, mais tu sais, c'est compliqué, aimer, c'est pas
Bien, vous
facile.
dites que, entre autres, dans l'amitié,
Oui.
ce qui est très important, c'est de se sentir libre, de ne pas avoir d'attente. Est-ce que ça s'est transposé aussi dans vos histoires d'amour?
Ben oui. Moi,
Puis
j'étais une princesse en attente. Tu sais?
comment vous avez fait pour...
Ben, j'ai beaucoup pleuré, cher. Puis j'ai beaucoup travaillé sur moi. Surtout, j'ai fait vraiment un cheminement intérieur, spirituel. Je suis allée en thérapie. J'étais dans des relations toxiques. Je veux dire, j'ai fait le parcours pour arriver à mon essence. Tu sais? La ride n'est pas gratis, comme on dit. sais, moi, quand j'avais la vingtaine, j'ai écrit dans Jeanne Janvier mon premier livre publié en 81. Je suis une romantique, une amoureuse éternelle, morte d'avance et en retard d'un siècle. Tu sais, moi, je suis sûre que j'ai vécu à l'époque romantique, puis, tu sais, j'en ai vécu, là, t'sais. Moi, j'aurais pu être en amour avec Chopin, là, t'as rendu compte, tu sais. Alors, j'ai transposé, moi, ce romantisme-là dans mes rencontres amoureuses, fugitives d'un soir, mais pour moi, il fallait que ça soit le grand amour. Tu comprends bien que les gars, ils partaient en courant. Puis, c'est ça. Puis, avec le temps, on apprend à se connaître plus, puis à voir, en fait, le tissage de notre vie, puis voir que, ah, j'ai choisi d'aimer cet homme-là, mais il était impossible. Gardons ça, il y a peut-être la figure du père là-dedans. Ou bien, tu sais, ah, j'ai pas, c'était mon métier à ce moment-là qui était le plus important. Et puis, tu sais, on démêle en fait les chevaux de notre vie. Et puis moi, ben, je suis contente de cette réalisation, c'est de m'être réalisée artistiquement, parce que je suis d'abord et avant tout une artiste qui fait toutes sortes de choses. Moi, je dessine. J'écris des lettres. Pour moi, je mets une belle table. Pour moi, c'est toutes des expressions artistiques. Et puis, je suis contente. Tu sais, j'ai pas eu de la joie de la maternité, mais des fois aussi, c'est une peine d'avoir être parent aussi. Il y a des parents qui vivent des choses très, très, très difficiles. Tu sais, pas facile d'être parent. Et surtout là, en ces temps de pandémie, c'est très difficile. Mais j'ai rencontré l'amour, j'ai été patiente, puis j'ai jamais abdiqué. J'ai jamais douté que l'amour était le moteur de la vie. Et puis la vie m'a présenté Jacques, et c'est. Écoute, je me suis mariée, moi, le lendemain de mes 45 ans. J'avais jamais voulu me marier avant, là. C'est parce que là, j'ai dit, coudonc, c'est mon prince charmant.
Puis c'est drôle parce qu'il y avait Jacques aussi avait cette il est impressionné par vous. T'sais,
Ben
à un moment
oui.
donné, vous allez patiner, puis il
Ouais.
dit, je peux pas croire que je patine avec
La fille du
c'est
déclin de
ça.
l'Empire américain, ben, j'étais un peu son fantasme, tu sais. Mais non, c'était une belle journée. Il faisait froid, dans le froid du Canada. Il va m'écrire un très joli poème, d'ailleurs, dans les jours qui vont suivre. Puis, tu sais, c'est une rencontre qui n'était pas dans la séduction, tu sais. On était toutes là pour aller patiner, fait que pas maquillée, un gros manteau sur le dos. Tu sais, c'est pas comme aller dans un bar, là, tu sais, là, puis être obligé d'être dans la séduction. Tu sais, ça, j'ai fait ça quand j'étais jeune, mais quand t'es rendu à 43 ans, tu fais plus ça, là, tu sais. Là, des fois, je parle à des femmes, tu sais, qui ont un peu plus jeune que moi, mais qui veulent rencontrer. Ils sont toutes sur les réseaux de rencontres. Qu'est-ce que tu veux? En plus, tu peux même plus sortir, t'sais? Fait que les temps ont bien changé, tu sais.
Parce que quand on entend une Louise Portal en conférence, en entrevue, on a l'impression qu'elle a toujours été comme ça, mais il y a tout un cheminement. Quel conseil en terminant vous diriez à une personne, une femme, un homme qui trouve ça difficile puis qui traverse des moments que vous avez traversés dans le passé? Quel conseil vous donneriez?
Le mot qui monte, c'est faire confiance. T'sais. Faire confiance en la vie.
Pas trop
Puis,
se poser de questions?
non, c'est répondre spontanément, puis faire confiance parce que quand tu fais confiance à la vie, là, t'sais, la nature, à chaque année, le passage des saisons, t'sais, tout meurt et tout renaît. Mais c'est la même chose dans nos vies. On est des êtres vivants. T'sais. Moi, des fois, je regarde mes mains, puis je me dis, ben là, moi, mon ancêtre, c'était un batracien. Quand je regarde mes mains puis mes bras, je fais ben oui, ça paraît. Tu sais, maintenant, je mets des bagues puis je mets du vernis, mais je suis une batracienne, tu sais. Donc, je suis un être vivant. Et puis, c'est juste que mon environnement, maintenant, s'est beaucoup transformé au fil des siècles. Et puis, on a développé toutes sortes de choses en tant qu'humanoïde, en tant qu'humain. Mais moi, je trouve que un des plus beaux mots de la langue française, c'est le mot espérance. T'sais? Puis c'est un mot spirituel. T'sais? Puis mon père, il me disait tout le temps, comment qu'il disait ça donc? La foi que j'aime le plus, disait Peggy ou quelque chose comme ça, c'est l'espérance. T'sais? Parce que l'espérance, ça n'a pas une connotation nécessairement religieuse, c'est plus comme ça ouvre. T'sais? Fait que moi, c'est ça. Je leur dirais. Gardez l'espérance, gardez confiance en la vie.
C'est ce que vous diriez à la jeune Louise Lapointe aussi.
Ah ben oui, je dirais toi, tu suis tes élans, puis tu sais, tout ce que tu vas vivre est là pour une raison, a un sens, et puis ça sera peut-être pas facile des fois, tu vas poigner la garnotte, mais tu continues, t'avances.
Peut-être pour ça aussi que pour vous vieillir, ça ne vous dérange pas parce qu'il y a une certaine assurance, une expérience, puis c'est peut-être plus. Écoutez, ben, Louise Portal, vous venez de publier L'héritage des mots, donc qui est une correspondance entre deux rives. Vous me disiez aussi qu'il y avait un autre ouvrage, trois autres ouvrages qui étaient en préparation.
Oui, un ouvrage pour les jeunes avec un dessinateur très talentueux. Et puis ensuite, j'ai un projet avec mon mari. Et puis j'ai un projet avec un jeune auteur aussi.
Trois projets d'écriture.
Oui.
Et donc, on pourra aussi vous voir tout prochainement dans le film de Ricardo Trogi, Le Guide de la famille parfaite. Et vous incarnerez, comme vous avez dit un peu plus tôt, le rôle de la mère de Luc Picard dans le film Confession. Rapidement, Confession, ce sera donc en quoi que ça va consister?
Alors, Confession, c'est l'adaptation d'un livre. En fait, c'est la vie de Galant qui était un tueur à gages. Alors, Luc a aimé beaucoup, il a été fasciné par ce personnage-là, puis il a décidé d'en faire un scénario, puis en collaboration, et d'incarner Galant. Il va être formidable. Puis un jour, il m'a appelé, puis il m'a demandé si je voulais participer au tournage, puis il a joué sa mère. J'ai été très surprise, mais j'ai dit, mais j'ai même pas besoin de lire le scénario. C'est oui.
Est-ce que vous passez encore des auditions à l'occasion?
Maintenant, j'en passe plus. La dernière fois qu'on me l'a demandé, j'ai refusé parce que là, je me dis, là,
Ah oui,
non.
pourquoi vous l'avez refusé?
Parce que je trouve que j'ai plus à passer d'audition. J'ai fait assez de choses dans ma vie. J'ai envie d'être désirée. Tu vois, Guillaume, rendu à 70 ans, on a envie d'être désirée. Puis je serais plus bonne en audition. Dieu sait si j'en ai passé, puis j'ai toujours eu les rôles. Mais là, puis les dernières auditions que j'ai accepté de passer, je les ai pas eu les rôles parce que je pense que j'avais plus le drive, tu sais, pour aller chercher le rôle. Fait que maintenant, j'accepte que ce qui va venir à moi, ça va être merveilleux.
Louise Portal, merci beaucoup. Merci.
Bienvenue, bienvenue. Est-ce que je peux finir avec une petite chanson?
Oui.
Oui, OK. Un petit garçon rêveur rêvait de prendre la mer. De sa chambre au grenier, voyait au loin passer des bateaux colorés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il apprenait à compter les bateaux colorés. C'est mon conte, Ulysse et Pénélope.
Merci Louise Portal. Dans le prochain épisode, ne manquez pas un grand entretien avec la comédienne Mireille Desglots. Le Salon des aînés de Saint-Jérôme, dont j'ai le bonheur d'être le coordonnateur et dont ce balado lui est dédié, est devenu, au fil des années, depuis 2017, un événement d'envergure régionale. La pandémie a malheureusement bousculé bien des choses dans bien des domaines, dont le domaine de l'événementiel, de telle sorte que le Salon des aînés de Saint-Jérôme sera présenté en mode virtuel du 17 au 20 septembre prochain. C'est la comédienne Béatrice Picard, qu'on connaît très bien, qui a accepté de devenir le porte-étendard de ce salon. Et donc, évidemment qu'un salon des aînés virtuel, c'est une première dans les Laurentides et dans le Grand Montréal. Donc, on ne pouvait pas passer sous silence cette première dans notre région. Pour en discuter, je m'entretiens immédiatement avec Ghislaine Landreville, qui est membre du conseil d'administration de la TRARA depuis 2019. La TRARA, eh bien, c'est l'organisme qui est maître d'œuvre du Salon des aînés de Saint-Jérôme. Bonjour, Ghislaine.
Bonjour, Guillaume.
Comme on se connaît très bien, on a accepté évidemment de se tutoyer.
Oui.
D'abord, là, avant toute chose, Ghislaine, pour le commun des mortels, quelle est la signification exacte de l'acronyme TRARA? Qu'est-ce que ça mange en hiver?
La TRARA, ça s'appelle la Table de réflexion et d'action des retraités et aînés de la MRC Rivière-du-Nord. Donc, c'est un organisme dont la mission est de s'assurer que nos aînés aient une qualité de vie. Alors, on échange, on sensibilise, on essaie d'avoir un rôle de représentation auprès des instances comme les proches aidants, municipalité des aînés, la prévention des abus, l'habitation-logement. Alors, on essaie d'être présent dans tous les divers créneaux qui ont un lien avec les aînés.
Mais l'organisme n'existe pas depuis hier, là.
Non. C'est depuis 1999. Exact. Dans 2019, on a fêté nos 20 ans de façon grandiose. Alors, on est bien fiers du chemin parcouru.
Donc, la TRARA organise, met sur pied des projets destinés aux aînés, aux proches aidants. Et c'est le cas de l'organisation du Salon des aînés de Saint-Jérôme. Oui. Qui est issu d'une idée concertée, c'est ce que je comprends.
Exact. C'est une idée concertée entre les élus de la ville de Saint-Jérôme, le CIS des Laurentides et la TRARA. Et comme la TRARA est la maître d'œuvre, alors on a créé un comité pour gérer cette activité-là. C'est notre plus gros projet qui donne de l'information à nos aînés.
Exact. Donc, ce que je comprends, c'est que le Salon des aînés existe depuis un certain nombre de temps.
2017.
D'accord.
Alors, il y a juste en 2020 qu'on a dû abolir notre salon à cause de la pandémie, mais de 2017, 2018, 2019, on a eu une croissance au niveau des exposants, on a eu une croissance au niveau des visiteurs et on a eu plein de conférences qui ont été adorées par les visiteurs.
Donc, vous l'avez dit, évidemment, la pandémie, et je l'ai dit aussi d'entrée de jeu, a bousculé pas mal de choses. Donc, ce qui fait qu'il a fallu qu'on se réinvente pour la prochaine édition. L'édition de 2020 a été annulée, mais pour 2021, vous préparez un salon virtuel. À quoi peut-on s'attendre pour un salon virtuel?
Ah, ben c'est... il va y avoir plein de choses. On va avoir 8 conférences déjà de planifier. On a une vingtaine d'ateliers où les gens vont pouvoir vivre des moments importants.
Mais les conférences dont tu parles, Ghislaine, ça va être des grandes conférences, donc données par des personnalités publiques. Est-ce qu'on peut avoir des noms?
Ben oui, je peux vous donner quelques noms. Écoutez, Hélène Laurendeau.
Nutritionniste.
Sylvie Léonard, qui va nous parler de la prochaine danse. Jocelyne Robert, qui est sexologue. Rosemarie Charret également.
Qui est psychologue.
Psychologue, excusez-moi. Jocelyne Cazin qui va nous présenter son livre. Marcia Pilote qui a aussi une expertise. Édith Fournier, proche aidante.
Alors, ce sont des conférences qui sont immédiatement en lien avec les enjeux ou les préoccupations des aînés et des proches aidants.
Effectivement, puis comme on a vécu quelque chose de majeur en 2020, et que ce n'est pas terminé, bien, les sujets qui vont être traités vont aussi être en lien avec cette situation-là.
Alors, vous avez parlé d'ateliers éducatifs, vous avez parlé de conférences, mais évidemment, pour un salon des aînés virtuels, je soupçonne qu'il y aura des exposants.
Effectivement. Les exposants regroupent des organismes communautaires, des institutions publiques, et aussi des entreprises, parce qu'il y a des gens qui ont un intérêt pour que les aînés aient des soins, des équipements selon leurs besoins.
Parce que c'est ça, ce qu'il faut dire, c'est que, puis c'est vrai pour pas mal d'aînés et de proches aidants, quand on vit une situation, ou même quand on vieillit, ça devient difficile de se retrouver parmi toutes les ressources d'aide qui sont disponibles sur le territoire, notamment des Laurentides, mais aussi du Grand Montréal. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Salon des aînés, c'est une façon de regrouper toutes les ressources d'aide pour pouvoir mieux les repérer, mieux les connaître. Donc, les exposants sont issus des entreprises privées, mais de quel autre créneau?
Organismes communautaires, institutions publiques.
Est-ce qu'on peut avoir des noms d'exposants qui risquent d'y être? Je voyais là que le présentateur officiel, c'est Sélection Saint-Jérôme, qui est issu de la bannière de Sélection Retraite. Qui d'autre?
Oui. Alors, on a Maison Trudel, on a les sentiers commémoratifs, on a des marchés d'alimentation, Métro Famille Thibault qui va être commanditaire. On a...
Le curateur public.
Oui.
La Société d'assurance automobile du Québec, là, c'est ce que je voyais. Alors, c'est vraiment de tout acabit, là. On peut vraiment retrouver des années virtuelles. J'aimerais aussi prendre le temps, Ghislaine, de parler du lancement médiatique que le Salon des aînés organise à toutes les années. Évidemment, avec la pandémie, il a fallu user de stratégies pour pouvoir le diffuser en direct sur Facebook, mais aussi sur la plateforme virtuelle. Le lancement médiatique, c'est quoi exactement?
C'est un lancement pour les médias, pour promouvoir notre salon qui va arriver quelques semaines
mais
plus tard.
Mais qui est disponible au grand public.
Disponible au grand public. Ça va être visionné via Facebook Live et les gens vont pouvoir le regarder à partir de la maison. On va avoir notre porte-parole, Béatrice Picard, qui va être présente. On va avoir aussi Marie-Josée Taillefer qui va être présente. Alors,
qui sera animé, je le lisais, par l'animatrice Michèle Sirois. Alors, ça aura lieu donc le mercredi, donc c'est en marge du Salon des aînés. Le lancement médiatique aura lieu le mercredi, le 8 septembre à 14h, vous l'avez dit sur le Facebook Live. Le Salon des aînés, c'est ce qui est intéressant en mode virtuel, c'est qu'il n'y aura pas de frontières. Donc, on peut être de Québec, on peut être de Montréal.
De partout.
Et on peut y avoir accès. Est-ce qu'il y a des coûts pour ça?
Zéro. C'est gratuit pour tout le monde. Tous nos salons qu'on a fait dans le passé, c'était gratuit aussi pour tout le monde. Alors, les conférences, les ateliers, tout est gratuit.
Génial. C'est ce qu'on aime. Alors, je rappelle, Ghislaine Landreville, vous êtes membre du conseil d'administration de l'organisme La Trara qui chapeaute le Salon des aînés. Vous êtes sur le conseil d'administration depuis 2019 déjà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ça m'a fait plaisir.
Le balado Les grands entretiens du Salon des aînés de Saint-Jérôme vous a été présenté par les sentiers Magnus Poirier et par station7.ca.